Radio FMR. Disruptiv.
Dans cette release de CPU, la glottophobie des machines, un fauteuil parlant, Singer the Service et de la J-pop virtuelle. Notre invité est Celé Dreams, auteur-compositeur pour Vocaloid. L'équipe aujourd'hui, Daskritch et Gabriel. Et silence plateau.
CPU carré petit utile.
Bonjour, c'est les Dreams et merci d'être resté depuis la précédente émission.
Bonjour.
Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi à qui nous avions fait découvrir dans notre précédente émission la synthèse vocale. On a vu ensemble que l'histoire de cette technologie est plus ancienne que l'informatique. On a vu aussi que monopoliser un coûteux barbone pour le faire chanter était même validé par une multinationale, ou encore comment le premier Macintosh a pu se présenter sur scène. On a vu aussi que les usages de la technologie de synthèse vocale peuvent être très divers. Tiens, quelques exemples. Pour simplifier une interface pour des raisons économiques, comme pour les assistants personnels, pour des raisons de contexte, comme dans le guidage routier en conduite automobile, pour donner une information compréhensible destinée à une population éventuellement illettrée via les IVR, les automates téléphoniques de réponse interactifs, pour des raisons d'accessibilité, aussi bien pour les malvoyants et aveugles qu'en tant que prothèse pour des personnes muettes, ou pour frimer. Hein, Steve Jobs? Ah oui, je sais, c'est un classement très gros et je sais aussi que la plupart des applications pourraient appartenir à plusieurs catégories à la fois. Mais je résume. La première partie de ce sujet a été consacrée aux pionniers, aux premières applications grand public et enfin au chant. C'est ce sujet, mais pas que, que nous allons approfondir durant cette émission. Et notamment, on va parler d'idoles virtuelles de la chanson et de ses potards de réglage. Et plus exactement, d'un type particulier de synthétiseurs vocaux, les Vocaloid, type de logiciel créé au Japon. Donc, déjà, il faut comprendre le phénomène d'idole au Japon. Une idole est une célébrité, souvent dans le domaine musical ou la série télé. Bah oui, comme les chanteurs rock des années 1960 ou les boys bands des années 90. Sauf qu'au Japon et en Corée du Sud, le niveau de concentration de tous les phénomènes liés à la célébrité d'une idole pop sont concentrés à un niveau qui ébouriferait un député français. Alors mélange au shaker ou à la cuillère, peu importe, le concept de star avec une imagerie sortie d'un jeu vidéo kawaii, imagine ce que cela donnerait si on y greffe des simulateurs de personnalité en large language model. T'obtiendrais des possibilités assez folles. Pour s'en donner l'idée, il faut avoir lu le roman de William Gibson, Idolou, où un rocker célèbre décide de se marier avec le logiciel IA d'une autre célébrité, mais non charnel, elle. Et si tu n'es pas fan du pape du cyberpunk, il y a aussi un dessin animé issu de l'univers de Macross, Macross Plus, qui parle de mecha, où l'intrigue ne se limite pas aux batailles où sont engagés les Valkyries, mais aussi à la carrière d'une artiste de synthèse, Sharon Apple, dont les compositions ont été produites pour la fiction par Yoko Kanno, s'il vous plaît. Mais revenons à aujourd'hui. Une idole virtuelle, c'est génial. Tu ne passes pas des heures à les caster dans les soirées étudiantes, dans les karaokés assourdissants. Tu ne passes pas des heures en studio avec elle pour qu'elle apprenne à dompter l'enregistrement multipiste. Tu n'as pas des crises de diva. Tu n'as pas les parents ou le partenaire sexuel qui déboule pour s'improviser manager sans rien comprendre à ton business. Tu peux lui changer sa garde-robe plus vite qu'une mesure dans un refrain. Moi-même, entre autres crimes contre l'humanité. J'adore te laisser mariner, tu dois t'imaginer plein de choses. Non, ce qui s'est passé dans le studio d'enregistrement à Blagnac reste dans le studio d'enregistrement Polygone. Et j'en profite pour saluer ici tous les copines et copains du Possy Drum and Bass qui sévissaient sur Radio FMR à la fin des années 90 et organisaient les soirées Kitty Style en ville. Et non, caco, je n'allais rien dire de particulièrement vexant ou compromettant. Où en étais-je déjà ? J'ai perdu ma portée dans la partition. Oui ! Reprendre une idole virtuelle comme LeadVoice, c'est s'épargner bien des soucis de gestion RH, comme gérer son après-carrière. Bah oui, pour le public, une idole, c'est un peu comme une copine de Leonardo DiCaprio. Passé ses 25 ans, il lui manifeste étrangement bien moins d'intérêt. Et gérer la reconversion professionnelle peut parfois être très glauque. Comment ça? Oh bah, il y a un film, Perfect Blue, du regretté Satoshi Kon, que je ne puis te recommander puisqu'il est interdit au moins de 12 ans et que tu n'as que 11 ans cette année, je te le rappelle. Mais reprenons notre sujet là où nous l'avions laissé la semaine dernière avec notre interview de Celle Dreams, qui compose pour la vocaloïde Hatsune Miku. Hatsune Miku, c'est plus qu'un synthétiseur de voix qui peut chanter. C'est aussi l'image d'une jeune femme avec de très longues couettes et à la garde-robe bleue dessinée dans un style que même les plus profanes rapprocheraient à une Japanimation. Seulement depuis l'apparition de cet instrument vocal synthétique, il y a déjà une vingtaine d'années, son imperfection pourrait la faire passer pour du rétro-computing, un peu comme faire du graphisme pixel art, de la musique chiptune et programmer un jeu sur NES. Mais au-delà de l'intérêt muséographique, il y a le parti pris artistique. Cette patine rétro, un poil nostalgique, et en même temps l'envie de ne pas induire en erreur l'auditeur, de ne pas la faire passer pour une vraie chanteuse. Alors pourquoi se tourner vers une Vocaloid? Parce que l'outil et l'interface se pluguent sans souci dans ton outil de composition musicale, ou parce qu'il y a un nom et une image que tu peux t'amuser à modifier pour la pochette de l'album? Ou parce que c'est un outil de synthèse qui peut sans souci s'affranchir des limites physiques? Qui ne rêve pas d'avoir la capacité pulmonaire infinie pour scatter durant 4 minutes sans respirer? I'm a scat man. Parce que tu ne t'en rends pas compte, mais pour faire cette voix de pantanonce d'un audit financier, il me faut énormément de souffle. Et je reprends souvent la phrase 3 ou 4 fois pour bien le faire. Ou encore, qui ne rêve pas d'avoir à sa disposition, à l'heure bleue des matines, un chœur grégorien capable de chanter juste en klingon les conditions générales d'utilisation d'Apple? Parce qu'après tout, si Adriano Celentano chantait presque n'importe quoi dans Prisan Colinen Sienain Chiosol, il n'y a pas de raison que cela soit compréhensible. Pourquoi pas faire du chant percussif, surtout que tous les chanteurs de studio ne sont pas forcément chauds pour se faire taper dans le dos pendant qu'ils chantent. Ces idoles virtuelles sont avant tout un ouvroir sonore musical potentiel. Des chants exploratoires où l'on peut défoncer des barrières en chantant. Un peu comme la synthèse musicale a amené des créations comme les musiques de Jerobeam Fenderson dont on a parlé dans un précédent épisode, parce que sa musique affiche des images cohérentes quand on la branche sur un oscilloscope. Non. La vraie raison, c'est qu'on prend plus qu'une voix. On prend aussi une persona qu'on fait jouer comme chanteur fictif de sa chanson. Et le nom ne trompe pas. Une simple recherche le dit. C'est un chanteur ou une chanteuse virtuelle, un instrument de musique informatique, et c'est assumé. Alors que les outils actuels d'IA génératrice qui chantent d'une manière ultra convaincante, ça viendrait à personne de diffuser sa musique en créditant au chant ChatGPT ou la start-up qui en a repackagé l'API. En fait, tu n'es absolument pas incité à le faire. Enfant du futur immédiat, une idole virtuelle, c'est fun, soit, mais... Et la performance en live, alors? Ce moment de grâce qui est à la limite de la fêlure personnelle et de la note manquée, ou de l'improvisation, du moment qui devient plus beau que prévu par accident. Tiens, prends un album des Beatles, écoute bien, et tu découvriras que leur interprétation n'est pas parfaite. Il y a eu parfois Ringo Starr qui a manqué une mesure, Paul McCartney qui se foire sur un accord, alors que George Harrison marche sur le pied de John Lennon. Et tu comprendras ce qui différencie un live dans Taratata d'un playback chez Hanouna. Le fun. Donc non, l'idole virtuelle ne remplacera pas les artistes interprètes, mais donne à expérimenter avec eux.
Come. 足が揺れる溢れ出した胸のこのものリズムに乗っかって木星の雲ステップ踏んで土星の輪っかステージにしていつか見た流星を追い越して君を連れてくよ輝きの先。
Karasuya Sabu et Keita Inoue, Voyager. Film promo pour le jeu Idolmaster 221 avec l'ensemble du cast vocal des personnages du jeu.
Écoutez Radio FMR.
On vous a concocté un lexique très grossier, mais sans gros mots, pour ceux qui n'ont pas encore écouté notre précédente émission, qui est toujours disponible en ligne.
Phonème.
Un phonème est un son du type voyelle A ou consonne R. Mais il y a des sons composés comme en, ou, pas, des diphtongues comme moins. Les syllabes sont composées de phonèmes.
Accentuation.
En français, l'accentuation sert surtout à connaître si une phrase est exclamative, interrogative ou neutre. Dans certaines langues comme l'espagnol, les mots ont chacune une accentuation dite tonique qui permet de distinguer les mots entre eux. Dans certaines langues comme le mandarin, une même syllabe peut avoir jusqu'à 6 sens différents, donc 6 mots bien distincts en fonction de l'accentuation de sa prononciation.
Rire.
Eh oui, les synthèses vocales savent même rire. Et c'est plutôt inquiétant. Hein, Alexa ?
Of course I can laugh. Ha ha hi hi hu hu he he ho ho ha 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 ha.
Silence.
On ne s'en rend pas compte, mais le silence est une expression utile dans la diction. Pour placer une virgule, pour changer de phrase. La respiration et la déglutition sont désormais reproductibles en synthèse vocale pour l'oreille humaine et lui faire oublier qu'il écoute une machine. On va même vous dévoiler les coulisses de notre émission CPU. Dans l'écriture de nos textes, on a un petit guide de référence typographique, une petite convention informelle pour utiliser la ponctuation, ceci afin de nous aider lors de l'enregistrement de nos chroniques à l'oral. Songez-y, on utilise la ponctuation pour aider à dire un texte écrit, car elle sert aussi à poser notre respiration.
Respiration.
Alors, pour ce mot, il faut que je pense à ne pas supprimer mes bruits de respiration et à vous laisser le son brut de l'enregistrement. La nouveauté des synthèses vocales depuis une dizaine d'années est de simuler une respiration, voire des bruits de bouche, afin de paraître nettement plus humain. Quand on s'en rend compte, cela peut devenir très perturbant.
Glottophobie.
Les synthèses vocales primitives étaient dénigrées pour leur prononciation qui n'était pas exactement dans le standard de la langue des humains. De nos jours, étonnamment, on salue l'expression d'accents régionaux pour une synthèse vocale, comme un marqueur de terroir et un témoignage de respect pour une région. Ainsi, dans notre zone de radiation hertzienne, à Toulouse, une partie des usagers des transports en commun se plaignaient que les annonces dans le métro furent enregistrées par une humaine avec un accent de terroir, tandis que celles des bus venaient d'une voix synthétique, en locale jacobiniste parisienne, ce qui passe très mal dans la cité depuis la croisade des Albigeois en 1229, ou depuis que les Parisiennes du Stade français sont capables de foutre une branlée à notre Stade toulousain.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et dans cette émission, on y parle de nous, les synthèses vocales.
Pour lire un mot à voix haute, comme je le fais en ce moment, mon cerveau transforme les mots écrits en français en leur correspondance vocale en français oral. Je transforme donc inconsciemment des mots en phonèmes à exprimer et à articuler. C'est exactement le même modèle qui est fait en synthèse vocale, car en général, on envoie à la fonction de synthèse vocale une chaîne de caractères où les mots sont écrits de manière lisible par les humains. Cette fonction comporte donc une sous-fonction de transcription phonétique, en général dans l'un des multiples systèmes d'écriture phonétique qui existent, comme l'IPA, l'alphabet phonétique international, celui que vous trouvez dans les dictionnaires, mais il existe d'autres alphabets phonétiques. Le français est une langue à écriture syllabique et non pas idéographique. Donc, pour la lire à voix haute, on n'a pas besoin d'apprendre chaque mot de son vocabulaire, mais les lettres expriment des sons. Et donc, théoriquement, on n'a qu'à connaître les 19 consonnes et 13 voyelles phonétiques, soit 32 sons utilisés naturellement en français pour dire un mot sans le connaître. Et pourtant, cocorico, le français est une langue compliquée à apprendre à lire. Tous les enseignants en primaire vous le diront. Ceci malgré ou à cause des efforts de l'Académie française. Rien que les 10 premiers nombres en français, chacun d'entre eux comporte au moins une exception phonétique, souvent unique dans la langue. Si, si. Fermez les yeux et pendant que je compte, rappelez-vous leur orthographe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre autres difficultés, on a un nombre incroyable de lettres non vocales en français. Là où en anglais quasiment toutes se lisent, il y a très peu de lettres muettes, à l'exception du K en début de mot suivi par une autre consonne. La transcription phonétique est l'étape d'apprentissage en lecture la plus importante. Et certaines langues s'apprennent plus vite quand leur alphabet est purement phonétique, comme le hangul en coréen ou les kanas en japonais. Cette étape est donc aussi complexe pour les humains et donc un souci récurrent dans l'éducation. Ainsi, dans les années 1960, pour faciliter la lecture, des enseignants britanniques ont essayé un alphabet semi-phonétique, l'ITA, qui comportait 44 caractères. Il ne s'agit pas de remplacer l'alphabet latin, mais de simplifier la transcription phonétique chez les enfants. Et oui, on pourrait penser que l'ITA est inspiré de l'IPA, l'alphabet phonétique international, mais c'est faux, notamment parce que l'ITA ne va pas faire d'indication d'accent, ce qui aurait pénalisé les Gallois, les Écossais et surtout les Cockneys. Ce serait con. Sauf que faire apprendre un double alphabet à des enfants a mené parfois plus d'échecs scolaires que ce qui était voulu. Finalement, ce système d'écriture a été abandonné. Il a existé un système aux mêmes finalités en français, mais dont l'origine n'était pas éducatif, mais ironique. L'orthographe phonétique, popularisée par Raymond Queneau dans son néo-français pour se moquer de l'académisme parisien, et qui a été adoptée par des éducateurs réunis au sein de l'association Alphonique. De nos jours, il existe des bibliothèques de transcription phonétique. Par exemple, OpenIPA, où on peut passer un texte français en IPA. Mais comme je viens de le dire, l'IPA est une transcription qui implique un accent particulier, au hasard un accent parisien. Little Computer People, Little Computer People.
Little Computer People, living in a digital world. Can't you see them on the screen? You're the master, you're the key.
écouter l'éphémère.
On a reconnu d'entre mille sa voix désincarnée, robotique, impersonnelle. Et pourtant derrière, l'humain qu'il utilisait pour s'exprimer était immanquable et populaire. Stephen Hawking est connu pour trois particularités. D'abord, en tant que théoricien dans la cosmologie et ses avancées vers la théorie de la grande unification. Ensuite, en tant qu'auteur d'ouvrages de vulgarisation sur la physique quantique, dont Une brève histoire du temps. Et enfin, pour sa voix numérique désincarnée, produite par son fauteuil roulant. Déjà fortement impacté par la maladie de Charcot, une maladie dégénérative qui lui a fait perdre l'usage de ses muscles, Stephen Hawking contracte une pneumonie en 1985. Pour lui sauver sa vie, il subit une trachéotomie, mais cette opération commet un dégât irrémédiable, la perte de parole. Ses travaux et sa renommée acquise par la vulgarisation ont attiré de nombreux industriels, heureux d'être sponsors pour pallier à ses lourds handicaps. IBM lui a conçu, sur mesure, un dispositif de synthèse vocale dans un PC embarqué. Et ce dispositif a énormément évolué en 33 ans en fonction des technologies et des sponsors. Intel a été un des récents contributeurs en ajoutant un moteur de prédiction linguistique évolutif, un modèle de langage entraîné sur les précédents écrits et mots du savant et qui va évoluer avec son usage. Ce système logiciel s'appelle ACAT, Assistive Context Aware Toolkit, et est toujours actif et développé en open source sur GitHub. Il faut imaginer que depuis 1985, le fauteuil roulant de Stephen Hawking était devenu, selon les propres mots de son assistant, une machine de Frankenstein. Entre le respirateur, les autres appareils médicaux, les batteries, les différents ordinateurs aussi bien pour la synthèse vocale que pour les moments où il écrit ou consulte le web, sa maintenance était assez complexe, au point qu'une annonce d'emploi pour un poste d'assistant et technicien publié en 2011 précisait bien « Maintenance of black box systems with no instruction manual or technical support. » Maintenance d'un système de boîte noire sans manuel ni assistance technique. Bonne chance. T'imagines intervenir dessus au moment les plus gênants dans l'emploi du temps ultra chargé de l'astrophysicien? Produite par une de ces boîtes noires embarquées sur son fauteuil roulant, la voix synthétique est devenue l'interprète de l'illustre scientifique. L'interprète seulement, car elle avait une petite particularité. Stephen Hawking avait l'habitude d'accueillir ses invités en s'excusant pour son accent. Car oui, bien sûr, IBM a conçu une synthèse vocale, avec l'accent américain. Alors qu'Hawking est britannique, qui plus est natif d'Oxford, la ville universitaire qui a donné son nom au dictionnaire anglais de référence, le Oxford English Dictionary. Oxford est aussi l'origine de l'accent britannique canonique, de la haute société de Sa Majesté. L'Oxford English, aussi dit le Received Pronunciation, aussi dit The King's English, l'anglais royal, aussi dit le BBC English, celui que vous apprenez par les méthodes de langue publiées par la Bib depuis 1943. Stephen Hawking avait un humour très britannique. De cet accent qui désormais le représentait, il en a ri à sa manière. Il faut dire qu'il était le genre d'homme à organiser une fête pour recevoir des voyageurs temporels, mais où personne ne s'est pointé. Oui, il a vraiment organisé une fête où il est resté tout seul une soirée dans une pièce. Gag qu'il a repris pour son propre enterrement, car selon ses volontés, il n'avait toujours pas prouvé que le voyage dans le temps n'existe pas. Si vous êtes donc né entre son enterrement en 2018 et 2038, vous pouvez participer à un tirage au sort pour avoir une place à la cérémonie de son enterrement en 2018. Autre blague dont était friand le scientifique, il a interprété avec sa synthèse vocale une chanson, The Galaxy Song, pour un spectacle des Monty Python. Stephen Hawking nous a quittés pour d'autres univers en 2018, et il chante sûrement encore The Galaxy Song.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned the sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day in an outer spiral arm at 400,000 miles an hour in a galaxy we call the Milky Way.
Our galaxy itself contains 500 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 6,000 light years thick, but out by us it's just 1,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of billions in this amazing and expanding universe. Expanding and expanding in all of the directions it can whiz. As fast as it can go, at the speed of light, you know. 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere out in space, cause there's bugger all down here on Earth.
Merci, Steven. Vous écoutez Radio Éphémère. Et maintenant quelque chose de totalement différent.
Nous ne pouvions parler de synthèse vocale sans parler des vocaloïdes, et de la plus connue d'entre elles, Hatsune Miku. Il se trouve qu'en faisant des recherches, nous avons découvert un compositeur français qui s'en sert avec un twist que nous vous laisserons découvrir. Et en discutant avec cette personne, celle-ci a montré une connaissance très fine de ce que nous appelons abusivement vocaloïdes. Donc forcément, nous ne pouvions que lui proposer d'en parler. Par son expérience, sa connaissance de la scène créative et surtout de par sa passion. Nous avons le plaisir de recevoir par satellite Sally Dreams, autodidacte pluridisciplinaire, développeur C, C++, C# et Rust, a d'ailleurs porté Rust sur Nintendo DS et auteur-compositeur pour Vocaloid. Ceci est la deuxième partie de l'interview, la première partie a été diffusée dans la précédente émission. L'intégralité de l'interview est disponible dès à présent sur le site web de l'émission cpu.pm/225.
CPU carré petit utile.
Pourquoi avoir fait appel à Hatsune Miku ? Est-ce que, contrairement à des musiciens de studio, elle était disponible un samedi soir à 23h et pour pas cher ? Ou est-ce que c'est pour son timbre de voix ?
Alors, Hatsune Miku, comme indiqué précédemment, en fait, c'est un peu une bonne base pour, sur laquelle on peut se baser pour en fait, faire son propre univers. Du coup, en fait, elle a une voix qui est plutôt polyvalente et qui peut sonner bien dans plein de contextes. Parce que, aussi, sa voix, elle est quand même plus facile à mix que certaines autres voix. Personnellement, je la trouve plutôt adaptée pour ce qui est des chansons qui sont très dynamiques et rapides, ce qui est un style que j'apprécie. Mais après, je n'utilise pas vraiment que Miku, il m'arrive aussi d'utiliser Kagame Nelen, Mayu et quelques autres voix comme Kasane Teto, qui elle est plus une Utaou et Synthesizer V. En tout cas, Hatsune Miku, c'est vraiment tout le côté justement où elle est très polyvalente, quoi. C'est vraiment, on peut la poser dans une musique douce, on peut la poser dans une musique, on peut la poser sur du métal. Il y en a, ils le font. Elle passe dans tout.
Mmh. Ouais, quoique je la vois mal faire du growl sur du grindcore. C'était plus fun de travailler sur un vrai titre que de jouer à un Idol Management Game, genre The Idol Master.
Bon, après, je dirais que j'y connais pas grand chose à l'univers de Idol Master, mais je pense pas que les deux sont vraiment très comparables, hein, parce que Idol Master, c'est plus une série.
Oui, c'est plus un jeu d'aventure où on joue le producteur, et d'ailleurs, les morceaux sont préenregistrés, sont précalculés, donc.
De mes souvenirs, ouais, c'est même pas on joue même pas un producteur, je crois qu'on joue plus ouais, c'est les gens qui gèrent les idoles, plutôt.
Oui, oui, c'est producteur, c'est carrière manager.
Voilà. Mmh.
Une Vocaloid, comme Hatsune Miku, comment qu'on s'en sert ? On entre la partition et les paroles et on appuie sur Go ?
Un Vocaloid, c'est un peu comme n'importe quel logiciel de création musicale. Donc on a, comme j'ai dit précédemment, en fait, un piano roll dans lequel on peut rentrer les notes qu'on veut. On rentre et après, le Vocaloid chante à une note, techniquement. Mais en fait, ça, c'est plus l'idée de base. Parce que si on fait que mettre des notes et des paroles, il va le chanter. Mais il va pas le chanter bien. C'est, vous savez, c'est, ça, il y aura aucune émotion. Il va le, c'est vraiment comme, ouais, ça, c'est un peu quelqu'un qui fait la la la. C'est pas musical. Donc voilà, une voix humaine, c'est rempli de plein de nuances. Il y a plein pour y mettre de l'émotion. Genre, on a plein de variations en général. C'est de là en fait que vient le concept de tuning, qui est en fait c'est comme ça qu'on l'appelle dans la communauté. C'est la partie en fait qui va distinguer le style de chaque compositeur, parce que même si on utilise la même voix, en fait deux compositeurs vocalistes souvent ils sonneront jour et nuit, et ils sonneront pas du tout la même pareil. Ils font le tuning avec plusieurs façons. En général, la plupart des cas c'est en éditant les paramètres d'automation. Par exemple, il va éditer les fluctuations de pitch entre les notes. Ou alors le gender factor qui change un peu, surtout les formants justement, qui change un peu le timbre de la voix un peu. Et avec toutes les combinaisons possibles, que ce soit avec le pitch, avec les paramètres genre, je sais pas, l'air qui va être mis dans la voix, etc. Ça va donner le style un peu unique.
Est-ce qu'on peut faire par exemple un frill ou justement faire ces espèces de vocalises variables, ce genre de choses?
Alors, ça dépend du logiciel, mais sur Vocaloid, en général, c'est des effets qui peuvent être un peu reproduits en faisant des modifications spécifiques de la façon dont ça fait le pitch. Donc, en fait, c'est parfois, par exemple, on peut émuler le frill un peu en mettant des pitchs très bas qui vont d'un seul coup vers le haut. En tout cas, c'est ce que j'ai vu que certains producteurs faisaient.
D'accord.
Donc, okay. Ça peut être émulé. Après, c'est pas natif au logiciel.
Forcément. Et limite quand même. Hatsune Miku, donc, est d'origine japonaise. Elle est censée chanter en japonais. Donc, comment vous, Celle Dreams, vous arrivez à la faire chanter en français, comme on l'a entendu dans le morceau pour le futur, c'est-à-dire sans la voyelle U ni le phonème SI. D'ailleurs, pourquoi avoir voulu la faire chanter en français?
Alors, en fait, Hatsune Miku, dans ses versions originales sur Vocaloid 2, oui, elle ne pouvait chanter que japonais. Mais en fait, avec les années, elle a gagné quelques voix. Par exemple, elle a gagné à partir de Vocaloid 3. Le support, en fait, de l'anglais. Donc, elle peut chanter anglais à partir de Vocaloid 3. Et à partir de Vocaloid 4, elle a aussi eu une version chinoise.
Mandarin ou cantonais? C'est pas le même chinois?
Il me semble que c'est le mandarin pour ce qui s'agit de Hatsune Miku V4.
D'accord, ok. Donc, c'est à destination de Taïwan, principalement.
Les premières chansons, en fait, Vocaloid que j'ai faites, surtout vers les 2018-2019, c'était, j'utilisais surtout les versions anglaises des voix, parce que ça, à l'époque, ça permettait de faire chanter avec les paroles sans, parce que tout manière, je découvrais Vocaloid, donc évidemment, j'allais pas directement les utiliser dans des utilisations uniques, forcément. Mais en fait, j'étais pas forcément trop fan de leur ton anglais. Parce que évidemment, Tuberce déjà c'est des voix japonaises, donc évidemment elles vont pas avoir un anglais parfait. Je trouvais que pour la musique, en tout cas, l'anglais était pas vraiment mon ton favori. Donc je me disais que la langue française, elle avait pas mal de potentiel dans le style de chant japonais. Donc ce que j'ai pas mal en fait expérimenté. Et du coup, pour le futur, en fait, c'était un peu la première chanson que j'avais sortie en fait en les utilisant en français. Je l'avais fait d'ailleurs pour la Miku Expo de 2021. Mais en fait, elle n'a pas remporté le concours, par contre. Mais au moins, bon, Crypto Future Media l'a au moins utilisé un peu dans leur radio Digital Star, donc au moins j'étais content. Pour le futur en particulier, j'avais utilisé en fait un combo où j'avais en fait utilisé la voix anglaise de Hatsune Miku en utilisant la voix japonaise à côté pour faire un peu fusionner les deux. Ouais, j'essayais en fait surtout de pouvoir exploiter les phonèmes des deux en fait voix pour justement pouvoir renforcer le côté français. Parce que si une n'était pas bonne dans un truc, l'autre pourrait peut-être compenser. En tout cas, c'était ma logique de l'époque. Après, avec les années, j'ai un peu changé mon approche. Maintenant, j'utilise surtout directement la voix japonaise de Miku, sans forcément trop passer par l'anglaise pour faire du français. Je dirais que pour combler les phonèmes qui sont manquantes, vous avez mentionné par exemple la phonème U, j'utilise en fait le gender factor. Comme j'avais dit, le gender factor, c'était pour changer les formants. Donc, en général, c'est fait pour changer le pitch de la voix. Mais en fait, une voix, c'est un truc où je m'étais renseigné à une époque où j'essayais de comprendre un peu le fonctionnement, justement, de la synthèse vocale. Et une voix, en fait, c'est composé de plusieurs fréquences fondamentales. Par exemple, il y a la fréquence fondamentale F0, qui elle correspond justement au pitch, qui est le pitch de la note mais do, ré, mi, fa, sol, la, si. Puis il y en a plusieurs qui sont F1, F2, F3, je crois que ça va plus loin, qui elles correspondent au timbre de la voix. Et du coup, si on édite le formant qui en fait décale en fait ses fréquences fondamentales vers la gauche ou la droite, bah du coup ça peut émuler en fait certains tons qui justement par exemple sont des voyelles qu'on a. Et du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, en éditant le formant, ça peut permettre d'émuler un peu certaines choses, justement, comme le ou français, ou des trucs comme un, et voilà, des trucs qui sont manquants. Et en jouant avec, ben, je peux essayer de faire chanter la voix en français.
Le fait que vous soyez développeur d'applications, ça vous a aidé dans cette approche ?
Ben, je dirais pas forcément directement, mais en fait, il y a des choses plutôt indirectes qui aident. Parce que évidemment, pour utiliser un vocaloïde, il n'y a pas besoin d'être programmeur. Mais je dirais qu'en fait, c'est surtout la logique générale de résolution de problèmes, qu'on disait en programmation, qui peut être très utile quand on travaille avec des vocaloïdes. Parce que justement, cette approche de se dire pourquoi est-ce que ça ne sonne pas comme je veux, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça sonne comme je veux, cette approche de se remettre en question en fait, pour se dire pourquoi il y a un problème et comment le résoudre. Je dirais que c'est cette approche-là qui, par contre, est très utile quand on travaille avec des vocaloïdes.
Mmh. Hatsune Miku a quand même des défauts de voix. Je suppose que les outils concurrents les ont peut-être corrigés. Alors, pourquoi l'avoir pris, elle, en particulier ? Justement pour cette reproduction un petit peu rétro de nos jours ou parce que, tout simplement, c'était la plus connue et on a pris la première sur l'étagère ?
Bah, je dirais qu'en fait, il y a peu de gens qui... utilise Miku qui cherche en fait une voix réaliste, je dirais. C'est plutôt en fait, c'est un peu ce ton irréaliste mignon qui est populaire. Il y a les voix vocaloïdes ou Utahou qui ont fini sur des logiciels plus réalistes comme Synthesizer V. Souvent, elles ont eu un peu de controverse avec la communauté parce que justement, du coup, il y a une partie de la communauté qui reconnaissait plus trop le personnage et c'est un peu pour cette raison, je pense que. Krypton est resté plutôt prudent pour ce qui était de changer le ton de Miku. Par exemple, vous pouvez être Kasane Teto, qui a originellement été une voix sur Utahou, qui était très artificielle, très robotique, mais d'une certaine façon, c'est ce que beaucoup de gens aimaient chez elle. Du coup, quand elle est arrivée sur Synthesizer V, elle a gagné plus de popularité auprès des gens qui préfèrent, qui aimaient pas trop le côté trop virtuel. Mais du coup, les gens qui aimaient justement ce côté virtuel et puissant, ils ont un peu moins aimé, du coup, la version Synthesizer V. Du coup, c'est vraiment une question de, je pense, de ce que les gens cherchent, en fait, dans la voix.
Mmh. Est-ce qu'après ces expériences, cela vous a donné d'autres idées créatives ?
Ben, je dirais que, en fait, j'ai un peu tout le temps des nouvelles idées qui me viennent en tête, que ce soit par, justement, mes expériences à composer des musiques ou alors, justement, en écoutant des chansons qui utilisent la voix de manière originale, que ça donne des idées. Mmh. Mais après, je dirais que c'est entre avoir des idées et les appliquer d'une bonne manière, c'est un peu là d'où vient la difficulté. Parce que parfois, l'idée qu'on a en tête, elle n'est pas forcément si bonne quand on la met en pratique.
Oui, forcément. C'est les Dreams featuring Hatsune Miku pour le futur.
Oh,
écoutez Radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes toujours avec Céline Dreams pour parler de ce que c'est qu'être producteur musical avec les Vocaloïdes. Dans cette partie-là, on va plus parler de la scène, et j'utilise ce terme en fait parce que ça ressemble beaucoup à la démo scène en elle-même, et aussi en fait des alternatives qui existent aussi bien des alternatives propriétaires que libres. Donc à côté de Yamaha, je suppose qu'il y a d'autres logiciels. Lesquels sont en vogue actuellement ?
Alors en ce moment, il y a plusieurs logiciels, évidemment, autres que Vocaloid sur le marché. Je dirais que les principaux concurrents, c'est Synthesizer V Studio, qui est développé par Dreamtonics, qui se centre surtout sur les voix plus réalistes. Il y a Sevio, qui inclut aussi Voicena, qui est une version un peu gratuite, mais qui utilise la même technologie. Et il y a Utahu, ou plutôt OpenUtahu de nos jours, qui en fait a toujours été en fait justement l'alternative gratuite à Vocaloid, qui originellement était gratuite mais était un logiciel propriétaire, mais qui de nos jours justement, comme je vous l'ai dit, avait eu un nouveau logiciel développé par la communauté qui lui est open source, qui est OpenUtahu, qui est plus utilisé de nos jours.
On va y venir justement tout à l'heure. Qu'est-ce qui démarque en fait l'ensemble de ces produits ? Dans un cas, c'est pour une meilleure voix, parce que la licence des sonores produits est un peu plus libre pour les musiciens, parce qu'il y a d'autres langues ou des types de chanteurs que ne proposent pas de leur côté Yamaha et donc les éditeurs vocaux.
Ben évidemment, chacun essaie un peu d'avoir ses arguments de vente. Pour ce qui est de Synthesizer V, qui est un des plus populaires, c'est parce qu'en fait, de un, il a un prix plus raisonnable, parce que si on achète Vocaloid depuis le site de Yamaha, Vocaloid, c'est plus de 200 euros quand même. Donc c'est quand même un investissement. Synthesizer V à côté.
Il y a des instruments VST qui sont dans ces prix-là aussi.
Oui, mais je veux dire, c'est le prix de chaque logiciel de synthèse vocale est en quelque sorte un argument en sa faveur. Mmh. Parce que évidemment, si deux logiciels font la même chose, les gens vont se tourner vers celui qui fait la même chose, mais qui est moins cher.
Oui, forcément.
Mais du coup, pour ce qui est par exemple de Synthesizer V Studio, déjà, évidemment, il a un prix bien plus raisonnable parce qu'il est vendu à 99 dollars. Donc, en plus, c'est moins cher du coup en euros, donc c'est plus proche de 95 euros environ. Et en plus, il est extrêmement réaliste avec une technologie d'intelligence artificielle qui est un peu à la pointe. C'est vraiment celui qui est le plus évolué dans le domaine et qui rend toutes ces voix en plus compatibles avec plusieurs langues. Grâce à la technologie, ils n'ont pas besoin en fait de réenregistrer dans chaque langue. Du coup, chaque voix en fait Synthesizer V peut chanter japonais, anglais, mandarin, cantonais et espagnol. Mmh. Et les voix de la version 2 peuvent aussi chanter coréen. Ils ont même annoncé d'ailleurs que le français est en développement pour Synthesizer V. Donc en fait, d'ici quelques années, il est possible que le français soit nativement en fait sur Synthesizer V. Ce qui sera vraiment du coup cool. Après, du coup, il y a Sevio, qui lui, par contre, n'est disponible que en japonais, mis à part certaines exceptions, comme la voix IA, qui a une voix anglaise. Je dirais que Sevio, en fait, il se démarque surtout sur les voix qui sortent dessus. Parce qu'en fait, beaucoup de voix, en fait, de chanteurs japonais qui sont plutôt célèbres ou de VTubers connus sortent sur Sevio et Voicena. Donc, en fait, je dirais que Sevio, c'est un peu le logiciel pour ceux qui sont pro-idol, quoi, qui sont vraiment dans les idols, etc. Et que du coup, il y a un peu leurs idols qui sortent dessus, quoi.
Donc en fait, on achète pour le nom de la voix qui est reproduite derrière. Donc en fait, on est plus sur du clonage de voix que réellement de la voix synthétique commercialement.
Pas tellement, parce que du coup, certains déjà font un peu plus du voice acting et ils font pas le. Et Sevio n'est pas aussi réaliste que Synthesizer V. Même s'il a quand même du réalisme, parce que de nos jours, il utilise de la technologie IA. Mais c'est moins réaliste quand même. Ils essaient de garder quand même le style un peu plus virtuel. Donc, mais en fait, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de représenter leur passion. Et du coup, bah évidemment, ils ont des arguments de vente là-dessus.
Forcément. Donc, tu l'as cité, il y a un projet libre, OpenUtahu. Est-il qualitatif par rapport aux logiciels commerciaux ?
Ben, disons que OpenUtahu, en fait, c'est un cas un peu spécial parce que c'est open source, mais en fait, c'est plus comme un front-end, je dirais. Parce que du coup, OpenUtahu, c'est plus l'interface du logiciel. Mais en fait, derrière, il y a plusieurs moteurs qui sont possibles d'utiliser. Il est possible d'utiliser justement le moteur, des moteurs Utahoo, qui sont souvent appelés des resamplers, qui du coup sont des voix plus classiques dans le style Vocaloid original, qui n'utilisent aucune intelligence artificielle. Donc les voix sont concaténatives, c'est le terme technique.
On copie-colle des samples que l'on a repitchés et tout ça, quoi.
Oui, c'est ça. C'est vraiment des samples qui sont paramétrés et qui vont. En fait, si on joue une note genre la, ben ça va jouer la sample la. Voilà. De nos jours, OpenAtu du coup permet d'utiliser en fait les moteurs, par exemple DeepSinger et NNSVS, qui eux sont des moteurs à intelligence artificielle. Et ces moteurs-là, en fait, du coup, les gens peuvent développer des voix pour DeepSinger ou NNSVS. Et après, ces voix peuvent être utilisées avec OpenUtahoo. Et il existe d'ailleurs justement une communauté française qui s'appelle Utahoo France, qui eux justement sont centrés sur la création de voix pour OpenUtahoo. Ça inclut des Utahoo, mais ça inclut aussi des voix DeepSinger françaises qui peuvent être utilisées en français et même dans d'autres langues grâce à leur système millefeuille qui leur permet justement d'avoir plein de langues disponibles, dont le français.
D'accord. On rappellera que sur la page web de l'émission, on mettra justement la plupart des liens que l'on cite et tout ça, et plus d'autres liens dans la partie documentation. Donc, vous embêtez pas à revenir en arrière pour noter les trucs. Allez direct sur la page web de l'émission. Il y aura toutes les informations. Et si vous nous écoutez en podcast, c'est que vous avez la description. Normalement, justement, vous pourrez retrouver ces informations dans votre player. Quelle est la taille de la scène Vocaloid, et je parle vraiment de la scène comme étant une scène de demo maker ou de compositeur, combien il y a à peu près de personnes actives dans ce secteur-là?
Alors, je pourrais pas forcément donner des chiffres exacts dans les personnes actives, mais ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a quand même une audience qui est plutôt conséquente. Déjà, évidemment, c'est une grosse communauté au Japon, là, il y a rien à redire. Mais c'est aussi, en fait, en Occident, aussi une grosse communauté. Mais en fait, je dirais qu'en Occident, on a beaucoup plus de gens qui écoutent de la musique Vocaloid que de gens qui en produisent. Quand on regarde dans ceux qui, en quelque sorte, utilisent des Vocaloid, etc., en Occident, en fait, une bonne partie fera surtout des covers plutôt que des chansons originales. Donc, ils font chanter une chanson qui existe à un Vocaloid, un peu comme un karaoké, quoi. En tout cas, il y a quand même une bien grosse audience qui écoute. Parce que, par exemple, si on regarde certaines chansons, il y en a quand même qui atteignent plus de 13 millions de vues, ce qui est quand même pas rien. Et en plus, il y a beaucoup de compositeurs qui font dans différents styles. Donc, vraiment, si on regarde, il y a quand même une communauté qui est pas mal là. Je pense qu'on peut aussi, par exemple, regarder en Occident toujours, par exemple, les concerts d'Hatsune Miku, que ce soit la Miku Expo, etc. Et on voit que à chaque fois, c'est quand même plutôt bien bondé, quand même, niveau... la salle, elle est bien remplie, quand même. Donc, oui, il y a une scène Vocaloid. Après, elle est en Occident, elle est plutôt, je dirais, limitée quand il s'agit des compositeurs.
Ouais, forcément. Donc, il y a un public, mais il n'y a pas encore suffisamment de personnes qui se sont penchées pour faire tourner le logiciel, quoi.
Je pense que c'est il y a probablement plusieurs raisons, hein, que ce soit les justement le fait que le logiciel est plus tourné vers le Japon souvent, que le fait que ça représente un investissement, alors qu'ils ne sont pas tous sûrs qu'ils auront un retour sur cet investissement. Et justement, en plus, les difficultés niveau licence, parce que évidemment, il y en a plein, ils veulent vendre leur musique, et du coup, parfois, c'est un peu compliqué. Donc, ouais. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs en Occident qui compliquent un peu les choses.
Qui sont les grands noms de cette scène, les producteurs qui pèsent dans le game?
Alors, il y a pas mal de noms qui sont plutôt populaires. Un qui est bien connu, ce serait Wowaka, qui est, je sais pas si je prononce correctement, mais voilà. qui lui a fait vraiment plein de musiques qui ont eu une énorme influence dans la communauté. C'est un peu lui qui a un peu fondé les bases pour l'utilisation des vocaloïdes dans les musiques très rapides, très, très fortes en émotion, quoi, qui sont vraiment très tournées dans les émotions fortes. Sa musique, par exemple, Rolling Girl, est une de ses plus connues, qui a fini dans quasiment tous les jeux vidéo Project Diva, tellement elle est populaire. Il y a aussi, par exemple, évidemment, il y a Lama Zepé. C'est un de ceux qui ont un peu fondé le principe des, justement, comme je parlais, des musiques qui sont vraiment tournées sur les personnages de Hatsune Miku, etc. Il a par exemple composé la chanson Triple Baka, qui est une chanson qui utilisait Hatsune Miku, qui avait Akitane Lu et qui avait Kazane Teto. Et c'est vraiment des chansons plus connues pour un peu dans un côté comique, tu vois ce que je veux dire, qui disent les personnages un peu avec leur personnalité. C'est un peu ce qui ces chansons-là qui ont donné un peu une popularité à ce que les gens utilisent les voix, pas juste comme un instrument, mais aussi justement comme un personnage à part entière avec son univers, quoi.
D'accord. Donc là, on est plus sur la comédie musicale, quoi.
Un peu, mais après, évidemment, ça reste des musiques, quoi.
Oui, bien
mais,
sûr.
Il donnait plus un côté, justement, qui était mignon, quoi, qui donnait vraiment sur le côté comique. Et après, évidemment, il y en a qui sont vraiment plus dans le très sérieux. Par exemple, il y en a qui sont... Il y a Utsupe, qui, lui, est justement un producteur vocal connu, qui, lui, fait du métal vocaloid. Et du coup, c'est bien qu'on s'y attend, avec des screams, avec des voix très... tout ce qu'on y attend du métal, quoi.
Ouais. Avec la différence qu'en concert, un slam d'hologramme, tant que le matériel ne bascule pas, ça va, il n'y a pas de risque. Là-dessus, est-ce qu'il y a des musiciens connus traditionnellement dans l'industrie musicale qui se sont mis à utiliser les vocaloïdes? Et dans ce cas-là, est-ce qu'ils mettent les noms de ces personas qu'ils utilisent en avant?
Je dirais que je n'ai pas énormément d'exemples sous la main, parce que c'est pas un truc sur lequel je me suis très tourné, mais il y a un exemple qui est très connu, ce serait celui de Lady Gaga, qui aurait utilisé Hatsune Miku, justement, au début d'un de ses concerts.
D'accord.
Il y avait littéralement l'hologramme d'Hatsune Miku sur scène, qui chantait des chansons d'Hatsune Miku avant, juste avant, le concert de Lady Gaga.
Donc en première partie, quoi.
Oui. C'est même trouvé sur YouTube. C'était une des utilisations de Miku qui a un peu le plus fait parler d'elle, évidemment, parce que c'était plutôt unique. Et de mes souvenirs, Hatsune Miku avait aussi été nominé pour le Coachella.
Oui, gros festival qui a lieu chaque année en Californie et qui est très connu, notamment en 2009 pour le passage des Daft Punk, entre autres, qui est la référence musicale pop aux États-Unis, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça.
Pour terminer, c'est les Dreams. Est-ce qu'il y a un chanteur ou une chanteuse humain ou humaine avec qui vous souhaiteriez collaborer? Ce serait qui et pourquoi? Et attention, dans la réponse, j'exclus d'entrée l'autotune de Jules.
Ben, je dirais que c'est une question que je n'ai jamais trop réfléchi, sur laquelle j'ai jamais trop réfléchi, mais je dirais que si on parle des chanteurs, par exemple, dont j'aime vraiment, dont j'aime beaucoup le ton, qui je pense serait très bon, je dirais qu'il y en a certains, par exemple, l'IA. Justement, qui est la chanteuse qui a donné sa voix à la voix Sevio, IA. En tout cas, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup et qui, je pense, pourrait sonner très bien sur certaines chansons. Mais bon, c'est vraiment pas une chose à laquelle j'ai énormément réfléchi.
Forcément. C'est les Dreams. Merci énormément de votre temps et merci justement pour la partie qui a précédé sur cette interview et du temps que vous nous aviez consacré pour y répondre. Merci beaucoup là-dessus.
Merci de même.
Et bien évidemment, bonne suite. Et comme on vous a diffusé sur Radio FMR, plus que 2 diffusions du même morceau et vous pourrez vous inscrire à la SACEM. Merci en tout cas à vous.
Je vous remercie de même.
C'était CPU, le programme Cari Petit Utile de Radio FMR. Dans la série Intelligence Artificielle, Release EX225, Synthèse Vocale, deuxième partie. Pour cette release, l'équipe était composée de Deskrich, Chief Wording Officer, Gabriel, Chief Lyric Officer, et avec l'aimable participation des synthèses vocales. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/225. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi dans 15 jours à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Et d'ailleurs, elle s'est montée très intéressée par la technologie de la synthèse vocale pour la statue du commandeur dans Don Juan. Bah tiens. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+ et en stream sur Internet.